Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Cette journée de 1er avril a commencé tôt pour Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. J'imagine que vous faites allusion à mon poisson d'avril de ce matin dans la matinale de Thomas Soto. Eh bien, cet après-midi, j'annonce la couleur. C'est une émission de détente, même de rire, que je vous propose en compagnie du roi des farceurs. Il est dans ce studio depuis moins de 3 minutes et c'est déjà la pagaille totale. Donc Jean-Yves Lafesse
est avec nous.
C'est pas vrai. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour Marc, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs et surtout les déconneuses et déconneurs en ce jour de fête.
Mais n'est-ce pas? C'est la fête des farceurs aujourd'hui.
C'est pas que je mets le bazar, c'est pas ça, c'est que je n'arrive pas à éteindre mon portable parce qu'on m'a demandé évidemment d'éteindre mon portable
et j'arrive jamais. C'est mieux.
Mais ouais, j'y arrive jamais, c'est pour ça que je
demande à madame Ledoux, à mon avis, elle est douée pour la technique, c'est son truc ça.
Son côté tactile.
Oui, voilà. C'est ça. Alors, vous avez, on peut dire, Jean-Yves Lafesse, inscrit vos pas dans ceux d'un certain nombre de devanciers ici à Europe 1. Il y a eu Francis Blanche, il y a eu Pierre Péchin. On va les entendre, évidemment, dans le cours de cette émission.
Général de Gaulle aussi est venu à Europe 1.
Évidemment, je ne suis pas sûr qu'il était le roi des farceurs, lui.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous reviendrez sur les origines d'un contentieux franco-suédois.
En effet, Ombline, pour le moment, tendez l'oreille. Je vous propose de revivre le plus grand canular radiophonique de tous les temps. C'était en 1938, c'était aux États-Unis.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
J'ai eu l'occasion de vous le dire un certain nombre de fois, au milieu des années 30, la radio occupe une place centrale dans l'univers des citoyens, notamment américains, parce qu'aux États-Unis, la radio est encore plus présente qu'elle ne l'était en Europe à cette époque. Elle est le concurrent direct de la presse écrite. Vous savez pourquoi? Vous allez voir dans un instant pourquoi je vous donne cette précision. La toute première apparition d'une transmission radio aux États-Unis, c'est 1906. Les programmes quotidiens existent depuis 1920. Donc en 1938, c'est un média qui est totalement installé. Et voilà que le dimanche 30 octobre 1938, 30 octobre, on est donc la veille d'Halloween, à 20h, la station CBS retransmet un concert de Ramon Rayuelo et de son orchestre à l'hôtel Plaza Park de New York. Bon, bref, un programme comme on pouvait en faire à cette époque. Et tout à coup, la musique est interrompue et voilà ce qu'on peut entendre. Mesdames et messieurs, nous interrompons notre programme de musique dansante pour vous communiquer une information des nouvelles radios intercontinentales. À 8h-20, heure du centre, le professeur Farrell de l'Observatoire Mount Jennings de Chicago dans l'Illinois signale avoir observé plusieurs explosions de gaz incandescent survenant à intervalles réguliers sur la planète Mars. Le gaz a été identifié par le spectroscope comme étant de l'hydrogène se déplaçant en direction de la Terre à une vitesse considérable. Le professeur Pierson de l'Observatoire de Princeton affirme que les observations de Farrell sont exactes et décrit le phénomène comme un jet de flamme bleue provenant d'un canon. Retrouvons maintenant Ramon Rayuelo et sa musique depuis la salle méridienne de l'hôtel Plaza Park, etc. dans le centre de New York. Et la musique reprend comme si c'était un véritable flash, comme si on s'était juste interrompu un moment pour donner une information d'importance. Musique, il faut imaginer, hein, Ramon Rayuelo, ça devait être joyeux, entraînant, etc. Et ça rend d'autant plus frappant le nouveau flash qui survient quelques minutes plus tard. Et on rapporte que cette fois, un engin spatial se serait écrasé sur une ferme du New Jersey. Alors là, évidemment, ça devient nettement moins amusant. Un envoyé spécial sur place peut s'approcher du vaisseau. Alors on entend des cris dans les lointains. Et lui dit qu'il aperçoit une créature. Il a des tentacules, dit-il. Je peux voir leur corps maintenant. C'est gros, aussi gros qu'un ours. Ça brille comme du cuir mouillé. Oh, et ce visage, mesdames et messieurs, c'est indescriptible. Et à ce moment-là, des bruits, des cris, des hurlements. Et puis un blanc à l'antenne, le présentateur, le reporter a disparu. L'envoyé spécial a dû être dévoré ou atomisé, je ne sais pas. Au fur et à mesure, les nouvelles se font de plus en plus ahurissantes. Les Martiens avancent vers New York. L'armée a commencé à tirer, dit-on, sans succès pendant une heure. Les flashs, les témoignages d'envoyés spéciaux et de spécialistes se succèdent. Ça préfigure ce que nous sommes en train de vivre, nous, avec les chaînes d'infos en continu, n'est-ce pas ? Bref, c'est une véritable guerre des mondes. Et pour cause. En vérité, c'est Orson Welles et sa troupe du Mercury Theatre qui sont à l'œuvre. Et ils ont décidé d'adapter, de mettre en scène un certain nombre de grands classiques de la littérature, et notamment La guerre des mondes de Welles, bien entendu. La guerre des mondes qui avait été publiée une quarantaine d'années plus tôt. Et voilà comment ils vont sidérer, et voilà comment surtout, ils vont effrayer 7 millions d'Américains qui maintenant ont l'oreille collée au poste. Alors on a pris soin d'annoncer qu'il s'agissait d'une fiction avant la diffusion du programme, mais vous savez comme est la radio, n'est-ce pas? Vous êtes tous bien placés pour le savoir. On prend le programme parfois en cours, et tous ceux qui ont pris en cours, évidemment, se sont laissés prendre. Alors on va voir un vent de panique, il y a des gens qui se cachent dans les caves, on se rue dans les églises pour faire une dernière prière. Certains craignent tellement d'être tués par les extraterrestres qu'ils se donnent la mort. C'est là que le canular commence à devenir nettement moins rigolo, si je puis dire. Et on peut lire à la une du New York Times le 31 octobre, les auditeurs paniquent en prenant la guerre des mondes pour un fait réel. C'est une véritable manipulation médiatique qui a eu lieu. Alors, est-ce qu'il s'agissait pour Welles de faire un happening, si je puis dire, de se faire remarquer tout simplement, comme il l'avait si souvent, comme il en avait l'habitude? Est-ce qu'il s'agissait aussi pour son équipe de contrecarrer en quelque sorte cette espèce de succès incroyable de la radio à l'époque? Il ne faut pas oublier que tous les gens qui ont participé à ce programme étaient des partisans fervents de la presse écrite, et que leur envie, au moins sous-jacente, était peut-être de démontrer qu'il fallait se méfier de la radio, que la radio pouvait être un média dangereux. Je vous propose d'entendre Orson Welles, un extrait de ce programme La guerre des mondes. On est en 1938. Mesdames et messieurs, nous savons maintenant que dans les premières années du XXe siècle, ce monde a été observé par des services secrets plus puissants que ceux des hommes, quoique aussi mortels qu'eux. Nous savons maintenant que comme êtres humains, ils ont été étudiés dans leurs différentes occupations, ils ont été scrutés et étudiés, d'aussi près sans doute que lorsqu'un homme étudie au microscope les créatures éphémères qui croissent et se multiplient dans une goutte d'eau. Voyez un peu le genre de texte extrêmement angoissant de ce programme, qui donc aura quand même créé des morts à l'époque. Et ça a eu un impact, ça, puisque pendant des années, on va se méfier du canular téléphonique. On va y revenir dans un instant avec Jean-Yves Lafesse, bien entendu. À chaque fois que un certain nombre de fantaisistes, de farceurs, et évidemment j'ai à l'esprit Francis Blanche et Pierre Dac, on va y venir dans un instant, à chaque fois qu'ils ont eu envie de lancer des programmes du même genre, à chaque fois on leur a cité cet exemple de la guerre des mondes en 1938. Alors vous savez que beaucoup plus près de nous, c'était en 2006, le 13 décembre 2006, on a assisté en Belgique à un programme qui peut être comparé à celui-ci. C'était dans l'émission Questions à la Une sur la RTBF, chaîne publique de télévision belge. Et voilà un journaliste qui arrive et qui annonce « Le Parlement flamand a déclaré unilatéralement l'indépendance de la Flandre ». Et il ajoute que le roi Albert et que la reine Paola aurait fui le pays. Il conclut même par ces mots « La Belgique n'existe plus ». Là encore, vent de panique, vous imaginez. Ça a été dans toute la Belgique, et là je sais que parmi tous ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont vécu ce soir-là. Ça a été d'autant plus terrible d'ailleurs qu'on a pendant tout un moment diffusé un certain nombre de petits reportages pour essayer d'accréditer cette information choc. On voit les images floues d'un homme et d'une femme montant dans un avion à la nuit tombante. Ça, c'est censé être le roi et la reine qui s'en vont. On voit des gens qui brandissent des drapeaux belges devant le palais royal. Un reportage ahurissant dans le tram où le contrôleur annonce que les gares flamandes ne seront désormais plus desservies puisque les deux pays sont séparés par une frontière. Enfin bon, et là où ça prend des proportions incroyables, c'est que dans la foulée, on a vu des personnalités, et pas n'importe lesquelles, venir réagir. Philippe Gueluc, Axel Red, etc. ont réagi officiellement à la nouvelle. L'émission a duré 1h30. Le standard de la RTBF a été complètement saturé, et l'on a annoncé, mais alors cette fois après une demi-heure de désinformation volontaire. On a annoncé, mais non, mesdames, messieurs, ceci est une fiction. C'est une fiction réalisée par la chaîne dans le but de montrer l'attachement des Belges à leur pays. Ça, c'était en quelque sorte l'excuse, l'argument officiel qui a été avancé. En vérité, c'était beaucoup plus profond que ça. Le but, c'était justement de mesurer jusqu'où les Belges pouvaient supporter l'idée d'une scission, car vous savez qu'en 2006, c'est quand même hier, hein, mais on parlait très sérieusement de cette scission entre Wallonie et Flandre. Et l'idée, c'était en quelque sorte de faire un ballon d'essai, de voir exactement comment les gens réagiraient, et peut-être aussi de les amener à réagir, de les amener à prendre davantage conscience de leur attachement à l'unité belge. En tout cas, c'est pas un petit projet qui s'était décidé la veille, puisqu'il avait fallu 2 ans pour le réaliser. Tout ça a été, disons-le, très mal vécu par la population belge, et la RTBF en a fait les frais, ça c'est certain. Je vous ai donné ces 2 exemples de canulars, alors brutaux si je puis dire, puisque ça ce sont des canulars qui sont destinés à tromper les auditeurs directement. Ce que l'on diffuse généralement sur l'antenne des grandes radios, et notamment ce qu'on a pu entendre depuis 60 ans sur l'antenne d'Europe 1, sont plus gentils puisque l'on piège quelqu'un et que les auditeurs, au lieu d'être les victimes, sont plutôt les complices.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Émission spéciale 1er avril de Cœur de l'Histoire où le rire est de mise en ce mercredi. Et Franck Ferrand, vous recevez Jean-Yves Lafesse, lui qui se définit comme une espèce de clown ou un drôle de farceur. Jean-Yves Lafesse qui présentera son one-man show détraqué le 30 mai à Rombas en Moselle et dès le dimanche 5 juillet au casino Lucien Barrière à Carnac en Bretagne.
Oui, alors...
Pendant 2 mois cet été, exactement.
C'est pas rien, 2 mois. Et puis ensuite, ça va tourner. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est non seulement le rire, Omblin, mais c'est la distanciation. On était en train de parler de ça à l'instant avec Jean-Yves Lafesse. C'est une sorte de philosophie de la vie, en fait. Mettre les choses un peu à distance, comment pourrait-on dire, les apprivoiser, les voir d'un peu plus loin.
On parlait de ça tous les deux?
Oui, il me semble en tout cas.
Ah bon?
Aucun souvenir de ça?
Non. Non, j'étais en train d'essayer d'éteindre mes lunettes et je n'y arrive pas non plus.
Oui. Pardon. Elles ont l'air à peu près aussi mystérieuses que le portable.
Voilà. Personnellement, j'ai une fascination pour l'homme Orson Welles. Pour tout. L'homme de radio, de cinéma, de théâtre. Mais ça, c'est un chef-d'œuvre.
Ça, c'est un chef-d'œuvre?
Oui, c'est un chef-d'œuvre. Utiliser la radio comme un espace sonore susceptible de dramatiser la vie, ce qui est quand même la vocation, une des vocations de la radio, pas seulement d'informer.
Avoir un impact sur la vie des gens. Là.
Mais bien sûr.
Et même sur la mort de certains, en l'occurrence.
Ouais, non mais attends, pardonnez-moi docteur, mais le mec qui va se suicider pour échapper à la mort, bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On peut pas le rattraper, celui-là.
Il avait pas envie d'être tué par la grosse créature qui avait l'air... qui avait la taille d'un ours. On peut le comprendre en même
ouais.
temps.
Non mais c'est un spectacle. Et la vie aussi est un spectacle. Donc, pour moi, c'est intéressant de faire ce qu'il a fait. C'est pas simplement la notion du divertissement, encore que dans le sens américain, ça prend un sens. Mais c'est aussi l'idée que quand vous disiez tout à l'heure que c'était aussi pour faire mesurer un peu le risque de la radio, de ces...
Oui, je pense qu'il y avait de ça dans...
Mais la presse est aussi dangereuse que la radio, hein.
Oui,
dans la formation, tout est susceptible d'être interprété, contrôlé ou autre. Donc...
Mais on était en 1938, la radio était un média relativement neuf, les gens avaient tendance à croire tout ce qu'ils entendaient, et il y a une immédiateté du message radiophonique qu'on n'a pas évidemment à l'écrit dans un journal.
Ouais.
C'est ça qu'il voulait dire, je pense, à l'époque.
Entre autres, parce que... oui, entre autres. Mais moi, je suis fasciné d'abord par l'idée qu'on puisse faire ça d'une radio, et utiliser le son, déjà. Ça, c'est ça, la première chose qui m'intéresse dans la fin de
cette
la guerre.
Cette expérience.
De... Ouais, bien sûr. L'important, c'est de considérer que le son, c'est une matière.
Hein, et comme... là, la radio devient quasiment un instrument artistique, hein, il faut dire, puisque elle va avoir un impact sur le monde, sur les gens, sur ce qui se passe.
Comme la musique, comme l'oreille, tout ce qui peut susciter à pleinement l'imaginaire, tout ce qui peut éveiller l'imaginaire. C'est ce qui nous manque de plus en plus d'ailleurs, puisqu'on reçoit des images brutes et on les digère pas, on les interprète pas, on n'a pas le temps. Mais c'est là l'occasion en profondeur de mesurer justement combien le son peut être nourricier
de mettre une distance, de créer un biais. Oui. Alors, moi, je suis un auteur de canular, pour tout vous dire, Jean-Yves Lafesse. Je n'ai pas du tout votre génie. Je suis très loin d'avoir atteint au sommet de monsieur ou madame Ledoux.
La flagornerie.
Non, mais c'est pas de la flagornerie, c'est la vérité. Mais en tout cas, j'en ai fait beaucoup dans ma vie. En tout cas, quand j'étais jeune, de ces canulars. Et je me suis toujours demandé pourquoi on fait ça, en fait. Qu'est-ce qui nous amène à faire des farces, à vouloir tromper les gens? C'est l'envie de rire du monde? C'est l'envie de montrer l'absurdité de certaines situations?
On joue avec des chiens. Parfois, notre chien, il part à gauche ou il part à droite. Et puis, il revient, puis il est content de nous avoir feintés. La feinte.
La feinte, voilà,
c'est ça. La feinte animale.
Oui.
Ouais, je pense que c'est ça qui les premiers à sortir de la caverne, exactement comme aussi un homme a trébuché sur un caillou au sortir de la caverne. Peut-être le premier rire à ce moment-là, j'en sais rien.
Il y a une question que j'aimerais vous poser. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Hein. C'est très difficile finalement, mais on peut se demander pourquoi, dans certaines périodes, on fait plus de canulars que dans d'autres, et notamment à la sortie de la guerre, hein, dans les années à la fin des années 40, au début des années 50, c'était vraiment devenu un sport national, le canular. Je vous propose d'écouter un canular historique. C'était sur l'antenne de la toute nouvelle Europe numéro 1. C'était Francis Blanche. Il disait qu'il était le patron d'un cours privé de garçons. Le cours en question se trouvait à Vincennes et il s'appelait le cours Sautreau.
Allô?
Allô, c'est l'institution de jeunes filles.
Oui, monsieur.
Ah, je m'excuse de vous déranger, madame. C'est monsieur Sautreau qui est à l'appareil.
Monsieur Sautreau?
Sautreau, oui, j'ai une institution de jeunes gens à Vincennes.
Oui.
Le cours Sautreau.
Oui.
À Vincennes. Vous connaissez?
Oui.
Bon, dites-moi, voilà, j'étais en train de faire le tour, n'est-ce pas, des institutions de jeunes filles pour essayer de mettre sur pied une série de sorties. Est-ce que vous pensez que ce soit possible?
Une série de sorties?
Oui, parce que vous savez ce que c'est, j'ai mes jeunes gens, n'est-ce pas, le jeudi, etc., ils vont traîner à droite à gauche. Alors j'aimerais mieux faire des sorties organisées avec, bien entendu, les élèves d'une institution de jeunes filles.
Oh, jeunes gens et jeunes filles, vous
voudriez
mettre ça ensemble?
Bah oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas? Bah moi je suis pas de votre avis, monsieur.
Bah vous savez, ça vaut mieux que des jeunes gens tout seuls, hein.
Oui, mais des jeunes filles tout seuls, c'est encore mieux. D'abord, nos jeunes filles, nous organisons nos sorties,
Oui, justement, mais je pensais que ça pouvait amener une espèce de compréhension mutuelle.
Vous?
Bah oui, ça
me semble. J'ai jamais vu, moi, garçon et fille, vous savez. Ça leur plaira peut-être, mais...
Ah oui.
Vous savez, les cours mixtes, c'est jamais parfait en France.
Oui.
Moi, je ne suis pourtant pas collé monté, monsieur.
Non.
Mais vous savez, les cours mixtes, ça n'a jamais beaucoup donné.
Moi, j'ai consulté mes jeunes gens à droite à gauche, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont tout à fait d'accord.
Vos jeunes gens?
Oui.
Bah, évidemment, ils sont toujours d'accord.
Ils sont même assez emballés.
Qui sera emballé, je comprends. J'ai pas consulté mes jeunes filles, elles seront emballées aussi.
Eh ben alors, il n'y a plus de problème à mon avis.
Ah, vous trouvez qu'il n'y a plus de problème? Bien sûr qu'il y en a, hein.
Je ne sais pas si ce sont les craquements de la ligne téléphonique ou de l'enregistrement, mais en tout cas, on voit que c'est un document du milieu des années 1950, Francis Blanche sur l'antenne d'Europe numéro 1. C'était presque déjà du Jean-Yves Lafesse avant l'heure.
Ben, ça l'était, c'était surtout du Francis Blanche, un génie. Un génie. Ouais.
Alors il montait tout un scénario, et ce qui est très beau, vous faites exactement la même chose, parce que pour préparer cette émission, j'en ai réécouté beaucoup, c'est formidable tous ces sketchs. Vous avez un scénario que vous déroulez petit à petit, à mesure évidemment de la réaction de la personne au bout du fil. Et ça, il faut tomber quand même sur quelqu'un qui ait une personnalité un petit peu saillante, un peu remarquable, sinon c'est moins amusant.
Quand l'autre décroche au téléphone, on n'a pas la moindre information.
Ah ben c'est ça.
À part la ville et la rue où il habite et son nom. On dispose que de 3 indices, mais ça ne donne rien de sa personnalité. Et il faut être concentré et entendre pas seulement ce qu'il dit, mais dans sa voix, il y a des traces de personnalité. Il y a des fragments d'inquiétude ou d'autorité qui traînent. Il faut juste les choper. Ça en dit beaucoup. Il faut être extrêmement concentré à l'oreille. Et puis on s'adapte, en fait. Il faut s'adapter, quoi. Donc, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il faut...
Faut immédiatement réagir à la phrase, au mot même.
Ouais, c'est du ping-pong. Je crois que ça va plus vite que le tennis, en fait. C'est vraiment sur la balle, quoi. Sur la phrase. La phrase comme une balle.
Quand je pense qu'il y en a qui s'imaginent que tout ça, c'est de la rigolade.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, émission spéciale 1er avril ce mercredi. Franck Ferrand, vous faites la part belle aux nombreux canulars réalisés sur Europe 1 avec votre invité Jean-Yves Lafesse.
Oui, et avec Germaine Ledoux que nous n'avons pas encore entendu. Alors, bonjour Madame Ledoux, merci d'être venue. Vous savez, ça fait très longtemps qu'on voulait vous recevoir ici.
Je suis heureuse d'être ici, vous plaît. D'être venu le jour de Pâques, en
plus. Oui, ça tombe bien, hein, c'est vrai. Vous avez cherché les œufs ce matin, vous ne les avez pas trouvés, je pense.
Non, je suis allé demander pourquoi ils ne pondaient pas, comme les gens, mais personne ne s'est décidé à pondre.
Vous êtes devenue une des voix les plus célèbres de France, Madame Ledoux, vous le savez. Oh. Pour quelqu'un qui doit passer inaperçu, c'est embêtant, ça, non?
Ça me flatte.
Oui.
Vous savez, comme toute femme, à défaut d'être encore séduisante, puisque je suis quand même un peu hors d'âge. Voilà, c'est ça.
Donc, moi, je ne me serais jamais permis.
Oui, mais enfin, c'est pas pour ça que je suis imbuvable.
Non, loin de là.
Je dis ça pour tous les consommateurs masculins. Je souhaiterais m'attendre à la sortie.
Voilà, et voilà. Ils peuvent même vous retrouver, s'ils le veulent, sur le site internet d'Europe 1. Ils auront l'image. Alors là, ça change tout, bien entendu.
Ah merde, je suis grillé. Mais non, mais ils vont voir que j'ai pas de...
Alors, là, votre voix, Germaine, est très célèbre, mais il y en a une autre qui était célèbre et qui surtout prenait toutes les apparences, était totalement protéiforme, c'était la voix de Pierre Péchin. Alors là, on est un peu plus tard, on est dans les années 1970, c'est l'affaire des saucissons Mireille, attention.
Alors les saucissons Mireille?
Mais non, c'est pas les saucissons Mireille, monsieur, vous faites erreur. C'est plus le même numéro, les saucissons Mireille.
Ah, et alors, vous pouvez me donner, s'il vous plaît, les numéros des saucissons Mireille?
Mais je peux pas vous donner le numéro des saucissons Mireille, je n'en sais rien. Moi, j'ai pris leur numéro à eux.
Ah, donc vous êtes les saucissons Mireille, alors, si vous avez substitué le numéro?
Mais non!
Comment?
Le numéro des saucissons Mireille a changé.
C'est-à-dire que vous êtes installé, vous avez pris le titulaire des saucissons Mireille?
Voilà, j'ai pris le numéro des saucissons Mireille.
Ah, alors, qu'est-ce que vous faites comme genre de saucisson?
Mais je ne fais pas de saucisson, moi. Ce n'est plus le même commerce.
Ah, c'est-à-dire que vous-même, maintenant, vous avez repris donc les numéros de téléphone?
Voilà, oui.
Et vous vendez des saucissons Mireille?
Dites-moi, vous le faites exprès ou quoi? Je vous dis que je ne vends pas de saucissons Mireille. Je vous dis que si c'est un magasin de photos, ça a changé. C'est plus le même numéro.
Alors, je voudrais de la galantine, des pieds paquets et des tripes de Caen.
Je vous dis, monsieur, que ce n'est pas les saucissons Mireille.
Ah, vous comprenez? Alors, je voulais parler à Mireille.
Vous voulez parler à Mireille? Dites-moi, oh.
Qu'est-ce que vous fabriquez, alors?
Hein?
Qu'est-ce que vous fabriquez?
Mais je vous dis que ça n'a rien à voir. Ce n'est plus les saucissons Mireille.
Non, mais c'est marqué dans l'annuaire saucisson Mireille.
Je sais que dans l'annuaire c'est marqué saucisson Mireille, mais ce n'est plus les saucissons Mireille.
Ah, et comment cela s'est fait-il, alors?
Mais j'en sais rien, moi.
Et si on s'associait pour faire du salami?
Ouais, ben vous vous trompez de numéro.
Ami du chorizo, merci. Ouais.
Alors ça, c'est le côté rigolo des saucissons Mireille. Mais là où ça devient culte, c'est quand on aborde le comique de répétition. C'est toujours Pierre Péchin, c'est quelques minutes plus tard sur la même antenne.
Allô?
Allô, bonjour madame, les saucissons Mireille?
Allô?
Oui, bonjour monsieur, les saucissons Mireille?
Bah, écoutez-moi, vous le faites exprès ou quoi?
Pardon?
Vous le faites exprès ou quoi?
Je vous demande pardon, monsieur.
Je vous demande pardon. Ça fait trois fois qu'on me téléphone pour les saucissons Mireille.
Ah, écoutez, je suis désolé, monsieur.
J'ai changé de numéro.
Ah, je suis désolé, monsieur, ça n'est pas moi.
Ce n'est pas vous. Bon, alors, que ce soit pour dire. Hein.
Non, parce que, voyez-vous, nous partons en crapahut 48 heures et pour mes hommes de troupe, nous aurions aimé quelques andouillettes, un peu de salami, de l'andouille de vire, un peu de jambon d'York, des tas de choses, n'est-ce pas, pour que ces légionnaires ne soient pas en manque de nourriture.
Oui.
D'abord, n'est-ce pas, c'est une dizaine de kilos d'andouillettes.
Oui.
À faire cuire, n'est-ce pas, sur le bleuet.
Oui.
Ensuite, nous prendrons, pour éviter une cuisson, des tripes à la mode de Caen.
Oui.
Ensuite, des pieds paquets.
Oui.
Un peu de chorizo.
Oui.
Environ
et
un quintal.
Les couilles aussi.
Pardon? Les rognons blancs, merci.
Allô?
Oui.
Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes photographe?
Oui.
Oui, bonjour, monsieur. Voilà. Louis Confin, je passe des vacances dans l'île de Beauté. Je suis moi-même photographe amateur.
Oui.
Et j'aurais voulu quelques petits conseils.
Oui, mais je ne donne pas de conseils par téléphone.
Ah bon, parce que j'ai mon Brovni Flash et ça ne donne pas grand-chose.
Vous avez un?
Brovni Flash.
Un Brovni Flash, oui.
Je suis retraité, je prends des photos de l'île de Beauté.
Oui.
Est-ce que je pourrais venir vous les montrer et que vous me donniez quelques conseils?
Mais je vous en prie, bien sûr.
Comme ça, après, puis vous, je pourrais photographier la vitrine où c'est qu'il y a les chorizo et puis où c'est qu'il y a les saucissons Mireille.
Voilà. Et puis quoi après?
Oh, et puis les figatelli.
Oui, et puis?
Et puis la galantine.
Oui.
Et puis les c*** du patron.
Voilà.
Hein?
Mais justement, j'aimerais que vous veniez me les photographier.
Ah oui, là. Là, évidemment, il fallait s'y attendre en même temps. Vous avez remarqué qu'on a couvert le deuxième gros mot, pas le premier, en fait. Ouais. Hein.
Qui l'a couvert? C'est pas aujourd'hui, en 2015.
Non, à l'époque. C'est au début des années 70, hein, évidemment.
Ah, ouais. Parce qu'on l'avait quand même très clairement entendu. Hein.
Et ce qui est drôle, c'est qu'on entend Pierre Péchin se mettre à rire. Ça vous est arrivé aussi souvent, au bout d'un moment, c'est tellement désopilant que c'est dur de garder le sérieux.
Très, très dur. Il y a des moments où on se sent rentré à l'intérieur de soi-même. Quand j'ai la voix du vieux monsieur Robert Ledoux, et quand je sens le rire qui monte au fur et à mesure que la situation se développe inexorable, que j'en peux plus de rigoler intérieurement, mais que ça ne doit pas s'entendre, j'ai, vous savez, le sexe au masculin, quoi, qui rentre, vous savez, comme dans le bas, qui rentre à l'intérieur de moi, etc. Alors, quand je fais Madame Ledoux,
Nuance.
Et là, c'est ma matrice qui rentre à l'intérieur. J'ai plus rien. Voyez-vous, j'ai tout.
Ah oui, je vois très bien.
Ah oui, oui, tout rentre à l'intérieur de moi. Tout ça pour, en fait, masquer, évidemment, la naissance du fou rire, voire le fou rire qui s'empare de vous. Parce que c'est intenable, parfois. Parce que il faut surtout pas essayer de visualiser ou de figurer ce qu'on est en train de raconter, parce que c'est impossible. Quand je me retrouvais, on parlait d'extraterrestres tout à l'heure avec Orson Welles, quand je me retrouve en train de faire le chef d'une planète, le premier, comme ça, en train d'expliquer à une dame que je suis en train de manger tout l'acier qu'il y a chez une dame, à commencer par son antenne de télé et sa voiture.
Et elle
tout.
Le croit.
Elle le croit, elle parlemente avec moi pour épargner les casseroles de la dame. C'est intenable. Honnêtement,
Là, c'est un travail, en fait. Il faut y croire intégralement. Il faut sans doute faire une sorte d'abstraction au moment où vous entendez les réponses, parce que sinon, évidemment, vous riez. Et si vous riez, c'est mort, par définition. Ouais. Et c'est difficile à obtenir, ça. C'est-à-dire qu'il faut combien d'essais pour avoir la bonne, si je puis dire. C'est un gros travail.
Alors, il y a deux questions.
Ouais. D'abord, on rentre en soi-même.
Oui. L'idée, c'est qu'au bout d'un moment, il fallait que je ferme les yeux. Il fallait que je ferme les yeux et que je m'enfonce dans le noir que procure. Bref, parce que là, c'est intenable. Vous essayez de vraiment d'être dans une zone qui n'existe pas. Il y a des moments où c'est tellement énorme que, il vaut mieux pas essayer une seule seconde d'imaginer. Donc, les yeux fermés. Et ensuite, combien on en faisait, Germaine, combien? Réveille-toi, la grosse! Oh, pardon, excusez-moi. J'en faisais à peu près, il est mal élevé avec ça.
Ouais, c'est je trouve.
Hein, il a les mazos, ça arrange en rien. Oui. Il a
entre des heures
50
et, des heures,
et 60 par jour, parfois plus, parfois moins. Et il fallait en sortir une par jour. La théorie de l'œuf, de l'imposture, celle qui soit meilleure que celle de la veille. Je me suis empalé sur ce truc qui était qu'il fallait en sortir une par jour meilleure que la veille.
Le défi personnel, là.
Pendant 10 ans. Vous imaginez ça? Mais c'est impossible.
C'est une ascension, donc je trouve ça formidable. Alors,
je suis pas certain, Marc. Je pense que c'est de la folie furieuse.
On va vous entendre dans un instant dans un sketch resté célèbre. C'est un de la série Les Appels en gare. En l'occurrence, on va être à Monaco. C'est la gare de Monaco. On va voir à quel point vous avez aussi une assurance incroyable. Parce que l'un des secrets de ce genre d'imposture, c'est qu'il faut être parfaitement sûr de soi. C'est l'assurance qui entraîne les autres, bien entendu. On vous écoute, Jean-Yves Lafesse.
Oui, la gare de Monaco.
Allô?
Oui.
Oui, bonjour monsieur, bonjour. C'est la gare de Monaco.
Oui.
Oui, je voudrais le bureau des appels en gare.
Des appels en gare, oui, c'est ici.
Ah, très bien, bonjour monsieur.
Bonjour.
La DST, l'appareil, division de surveillance du territoire. Dites-moi, nous avons un agent qui est actuellement dans votre gare.
Oui.
Il faudrait faire un appel en gare pour qu'il puisse rejoindre sa base.
Hein. Alors, c'est à quel nom?
Alors, c'est un agent, c'est donc confidentiel. Hein.
Oui.
Je vous passe le patron.
Hein. Oui.
Colonel, nous avons la gare.
Oui, mais c'est pour faire un appel.
Très bien, je vous remercie. Allô?
Oui, bonjour monsieur.
Voilà, oui. Donc c'est assez urgent, hein?
Oui.
Alors c'est un message codé.
Oui.
Alors c'est message personnel.
Oui, alors message personnel.
La mienne.
Comment?
La mienne.
La mienne?
Oui.
La mienne.
Est plus grosse que la vôtre.
Que la vôtre? Voilà, c'est tout?
Voilà, alors je patiente. Je vais attendre le message, hein?
Oui, d'accord. Message personnel. La mienne est plus grosse que la vôtre. La mienne est plus grosse que la vôtre. Voilà. On patiente, hein.
Des conneries comme ça à Monaco.
Ah bah tiens.
Chef de garde à Monaco, bonjour. Qu'est-ce que c'est ce travail?
Oui, bonjour monsieur.
Vous me faites dire des grossièretés là au micro là? Non mais ça va pas?
Oui, c'est un DST à l'appareil.
Oui, oui, alors garde à Monaco, on fait pas des trucs pareils, hein?
Alors nous faisons l'émission un 1er avril, Jean-Yves Lafesse, mais je me dis que vous, le 1er avril...
Je vous ai collé un poisson dans le dos, je vous ai appelé Marc.
Ah, mais
je
voilà, il semblait Marc. Que ça me grattait depuis tout à l'heure.
Je vous ai appelé Marc, Franck.
Oui, bah pourquoi pas, j'ai de très bons amis qui s'appellent Marc quand même.
C'est vrai?
Oui. Mais on peut dire que le 1er avril, vous étiez au chômage, vous, puisque tout le monde se doutait qu'il allait se passer quelque chose.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas le bon jour pour faire des canulars, en fait.
Bonjour férié à moi.
Oui. Le 1er avril, ouais. C'est votre 25 décembre à vous. Dans un instant, on va entendre deux sketchs qui sont sans doute les plus célèbres de Jean-Yves Lafesse et parmi les minutes les plus importantes de l'histoire d'Europe 1.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Le 1er avril et les canulars à l'honneur de Cœur de l'Histoire avec vous, Franck Ferrand, et le facétieux Jean-Yves Lafesse.
Oui, qui est encore debout. D'ailleurs, je me demande s'il ne va pas changer de micro pour tout vous dire.
Je teste.
En fait, j'ai l'impression que vous testez un peu tout, Jean-Yves Lafesse, et les tout. Gens aussi.
Ouais, j'ai pas le temps en une vie de tester tous les gens, quand même.
À pouvoir décompte.
Ouais, ça ferait beaucoup. Alors, je vous propose d'entendre le canular des canulars. On est un 1er avril, c'était le moment ou jamais. C'est Ginette. Pour tout vous dire, ce sketch-là a joué un rôle dans ma vie. Je vous raconterai ça juste après, si vous le voulez bien.
Allô?
Madame Briet?
Oui, qui est-ce?
Bonjour, je suis une de vos voisines, figurez-vous. J'habite au 2 de la rue, moi. Vous êtes au 12?
Oui.
Voilà, ben, je voulais vous proposer un coup de main pour ce soir pour vous aider à faire les gâteaux.
Un gâteau pour ce soir, pour quelle raison?
Ben, avec les invités que vous allez avoir, là, ce qu'ils ont dit à la radio. On vient d'entendre votre nom et votre adresse à la radio.
Mon nom, mon adresse à la radio.
Ah, vous êtes pas au courant?
Ah non, pas du tout.
Eh ben, il y a une émission de petite annonce sur les top 50 FM, là, vous savez, la radio libre, quoi. Et puis alors, ils ont dit qu'il y avait une fête chez vous. Ils ont même donné votre adresse. Moi, j'ai tendu l'oreille, j'ai entendu l'adresse, je me suis mis ça à côté de chez nous.
Et oui, j'ai rien entendu, moi.
Tous les gens qui partent pas en vacances et qui restent dans le 18e arrondissement, vous êtes invités, il y a une fête ce soir chez elles.
Il y a une fête ce soir chez moi?
Ah oui, c'est ce qu'ils ont dit, hein.
Oh, mais je ne reçois personne chez moi.
Et vous êtes pas au courant?
Non, je suis pas au courant.
Bah écoutez, je vais vous donner leur numéro de téléphone, puis dites-leur bien qu'ils ont dû faire une erreur. Hein.
Bah, ils ont fait une erreur, oui.
42. Oui. 51. Allez.
Bon, bah, je vous remercie, madame.
Mais c'est normal si on ne s'aidait pas entre voisins.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, madame.
Merci beaucoup, madame.
Au revoir, madame.
Au revoir.
Allô?
Allô, monsieur.
Oui, ne quittez pas, madame, parce que nous sommes à l'antenne. Hein.
Bah oui, mais...
Vous êtes bien, chers auditeurs, sur Top 50 FM, la radio qui en a, n'ayons pas peur de le dire. Et à l'instant, nous venons d'écouter donc Daniela. Oh, Daniela, comme c'était super, chanté par les sulfureux Elmer Footbeat. Je vous rappelle que pour Daniela, il reste 3 places pour tous les copains qui passent. En attendant, je vous rappelle nos 2 petites annonces de la matinée, donc qui courent depuis ce matin. La première, Jean-Pierre Bullock, il est super extra sympa comme mec. Vous allez voir, vous allez l'adorer. Il a 33 ans, les filles, il est célibataire et il voudrait rencontrer une jeune femme brilleuse pour faire la mouette ensemble. Et la deuxième annonce, donc je vous rappelle tout de suite la deuxième annonce, une grande fête qui est offerte dans le 18e arrondissement avec madame Ginette Briet.
Bah oui, c'est
au 12 rue, attendez madame, on est à l'antenne, hein. Au 12 rue, cette dame fort sympathique, donc vous pouvez l'appeler vous-même, chers auditeurs, au 42 ce soir, donc chez elle. Attention, à partir de 22h, une bouteille de champagne par personne, ça va être la fête. Je vous rappelle que l'orchestre donc de salsa de Patato Valdés, 30 musiciens de salsa chez madame Ginette Briet.
Et nous prenons tout. Monsieur.
Attendez madame, vous permettez, nous reprenons tout de suite notre débat avec donc notre auditrice. Allô, bonjour, comment t'appelles-tu?
Oui, mais moi je suis madame Briet.
Madame Briet.
Bah ben, je veux personne chez moi, moi.
Ah bah écoutez, c'est formidable, madame, vous êtes donc
ah
le...
Ah ben non, mais je veux Attendez. Personne chez moi.
Chers auditeurs, écoutez,
mais
c'est
merveilleux. Mais je veux personne chez moi, monsieur, je reçois personne chez moi.
Chers auditeurs, chères auditrices, vous avez donc votre hôtesse qui vient de nous appeler. Elle doit certainement nous appeler pour donner le code d'entrée de l'immeuble.
Non, je ne
Alors,
rien du tout.
À vous tous, attendez madame, attendez, on va parler après.
Non,
hein.
Attendez.
À tous les auditeurs et auditrices qui sont coincés dans les embouteillages donc de ces grandes routes de week-end et de vacances.
Bah oui, mais
Eh bien, on va vous passer donc madame Briet tout de suite. Alors madame Briet, je crois que votre prénom, si je me trompe pas, je vais même te tutoyer, c'est Ginette. Ginette, comment ça va?
Ça va mal, mais je veux personne chez moi.
Eh bien, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu sais combien
d'autres... Mais pourquoi vous tutoyez, monsieur?
Tu n'es pas une auditrice fidèle de la radio? Allez.
Bah, si, mais j'ai pas entendu, mais...
Eh ben, écoute, c'est
une dame qui m'a téléphoné de me dire que qu'il y a du monde chez moi ce soir.
400 personnes.
Mais 400 personnes, je voulais mettre.
Ah, pas ça. Attendez, déconnez surtout pas.
Déconnez, c'est pas moi.
Attendez, on prend l'antenne. Eh bien, jeune kid dynamique, jeune fille, t'es super extra comme nana. Je crois que je vais avoir une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu sais combien d'appels téléphoniques on a eu? 400 auditeurs, auditrices qui viennent de nous dire à l'instant qu'ils venaient tous chez toi avec une bouteille de champagne. Est-ce que tu sais quel est l'orchestre qui va jouer chez toi ce soir?
Mais j'ai pas d'or.
Eh bien, c'est place. Carlos Patato Valdez avec ses 20 musiciens de salsa. Qu'est-ce qu'on dit?
Qu'est-ce qu'on dit,
jeune kid? On dit merci.
Je dis merci, je dis pas merci, je veux personne chez moi.
Et attends, j'ai une bonne nouvelle, figure-toi. Attends, c'est pas fini.
Arrêtez de me tutoyer, mon sang.
On te prête une sono de 2x4000 watts.
Mais non, j'ai pas de place chez moi.
Et attention,
ça m'a pas la tête, non.
Je vous rappelle.
Mais ils vont qu'à 100 personnes chez moi, je veux pas les mettre, voyons, qu'est-ce que c'est cette histoire de la bêtise?
Ils vont danser.
Donc, vous dansez où?
Je vous rappelle l'adresse, tout le monde sait Ginette
Brier. Non. Ne donnez plus mon adresse sur l'antenne.
12 rue.
Arrêtez ces bêtises. Mais arrêtez ces bêtises.
Elle est cool, Ginette. Et c'est dans le 18e arrondissement.
Je suis pas cool, moi.
42.
Non. Ne donnez pas mon numéro de téléphone.
J'espère que ton appartement est assez grand pour contenir.
Non, mon appartement est pas grand. Ginette. Je veux personne chez moi.
Ginette, je te donne l'antenne.
Ginette, elle en a marre, Ginette.
Ginette, t'es géniale. Les 400 auditeurs donc sont...
Oh, j'en ai marre, vos conneries.
Allez, on t'embrasse très fort.
Oui.
Salut, Ginette.
C'était il y a 25 ans, 1990, sur l'antenne d'Europe 1. Ce qui fait plaisir, Jean-Yves Lafesse, c'est de voir que vous pleurez encore de rire en entendant ce sketch archi célèbre. Et c'est vrai qu'il nous a tous fait rire tellement. Vous arrivez à prendre de la distance avec tout ça maintenant?
Maintenant, oui. Là, j'en ai profité. Ah, j'étais mort. Ginette, on l'avait fait venir. On avait une émission sur Europe le vendredi où on invitait les gens que j'avais piégés à venir nous raconter pourquoi, comment ils s'étaient fait piéger.
Elle n'est pas cool, Ginette. C'est ce que je dis assez souvent aussi quand je veux pas trop qu'on me dérange. Elle n'est pas cool, Ginette. C'est devenu, vous voyez. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai juste en face de moi, nous avons en face de nous, un certain Jean-François Bussière qui était le réalisateur de la plupart des sketchs. Donc, vous le retrouvez aujourd'hui avec Marc Bric, avec Philippe Pénaud.
Oui, c'est une super équipe. C'est trois réalisateurs.
Et bien maintenant, figurez-vous que Bubu, comme on l'appelle ici à Europe 1,
fait des canulars aussi.
Non, il est devenu le réalisateur d'Au cœur de l'histoire. Il est devenu beaucoup plus sérieux, vous rendez compte. Beaucoup plus sérieux. Oui.
Bubu, mon Bubu, mais qu'est-ce que t'as fait pour arriver là, dis-moi?
Avant qu'il ait carrément quitté la console, j'en profite pour
Il est resté beau, il est toujours imberbe.
Il est impeccable, formidable. Ouais. Et on envoie tout de suite un autre sketch.
Sa perruque, quand même.
Encore plus célèbre.
Fais voir.
Il n'en peut plus.
Dis donc, c'est bien. Ça colle mieux à gauche qu'à droite.
Allez, le 43e sans ascenseur.
Bonjour madame. C'est les dépannages plomberies.
Oui,
bonjour, Madame Ledoux à l'appareil.
Oui.
Germaine, j'ai mon évier bouché.
Alors, Ledoux, c'est accroché ou pas?
L'évier?
Non, votre nom.
Ah, Ledoux, oui.
C'est accroché, hein?
Oui, c'est accroché. Alors, Parvis de la Défense.
Oui.
Tour Gentil.
Oui.
43e étage.
43e étage?
Ben oui.
Avec ascenseur, oui.
Sans ascenseur.
Non, vous rigolez, là.
Non, je rigole pas. C'est sans ascenseur.
Attendez, hein. Bon, quittez pas, madame. Hein.
Allô?
Allô?
Oui.
Oui, bonjour, monsieur.
Bonjour. Où est votre problème?
Vous êtes qui?
Ben, le directeur technique.
Ah, d'accord. Ben, moi, j'ai pas de problème. Simplement, je vais savoir à quelle heure il venait.
Oui, mais c'est au 43e étage?
Oui, c'est ça.
Oui.
Sans ascenseur, oui.
Sans ascenseur?
Oui.
43 étages sans ascenseur?
Oui.
Voilà.
Il n'y a pas de problème.
Non, mais 43 étages, il faut les monter à pied, madame. Hein.
Mais moi, je le fais bien, monsieur.
Vous le faites bien?
Ben oui.
43 étages à pied?
Ben évidemment, je fais mes courses une fois par semaine.
Et vous avez un évier bouché?
Oui.
Maintenant, pourquoi il n'y a pas d'ascenseur dans votre immeuble?
Non, c'était un immeuble fonctionnel.
Oui.
Et puis, les bureaux ont déménagé. Oui. Moi, j'étais la concierge et m'ont relogé là-haut.
Au 43e étage?
Voilà. Et ils ont muré l'ascenseur puisqu'il n'y a plus personne.
Et vous habitez dans un immeuble de 43 étages toute seule, alors, madame?
Oui, il y a mon fils qui vient me voir tous les jours.
Et, bon, t'as pris l'adresse de la dame, là, parce que... Oui, c'est... Alors, l'évier, il est bouché. Moi, je veux voir un gars, hein, Lionel, tu veux bien monter 43 étages, toi, à pied? Bon, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous trouver quelqu'un qui veut bien monter 43 étages à pied.
Vous êtes gentil, monsieur.
Oui.
Alors, c'est très simple, hein. Quand il arrive au 38e étage, il change d'escalier. Il prend l'escalier C, parce que l'escalier est muré, hein.
Au 38e étage, il faut changer d'escalier?
Oui.
Et prendre l'escalier C?
Voilà. Alors, avec l'escalier C, c'est un escalier qui descend jusqu'au cinquième, hein.
Et monter cinq étages?
Non, descendre.
Comment on descend jusqu'au cinquième?
Oui, parce qu'ils ont muré après.
Oui, alors, il faut descendre jusqu'au cinquième étage?
Voilà.
Une fois qu'on est monté au 38e?
Oui, c'est ça, mais c'est pas par le même escalier, hein.
Non, non, mais attendez. On monte 38 étages.
Voilà.
Voilà. Et après, on descend.
Oui, jusqu'au cinquième.
On descend jusqu'au cinquième étage.
Oui, alors, faut pas qu'il se trompe parce que c'est dans le noir.
C'est dans le noir?
Ah oui, il n'y a pas de lumière, hein.
Comment il n'y a pas de lumière? Là, c'est une galère, ça, hein.
Mais moi, je le fais bien, hein.
Oui, oui, je sais, mais si vous avez des bons yeux, il faut que je trouve un plombier qui a des bons yeux, hein. Vous savez, monter 38 étages dans le noir.
Oui, mais il peut compter dans sa tête, hein. Moi, je compte,
Comment il va compter dans sa tête? Déjà, il faut qu'il y arrive, hein. Il ne faut pas que je trouve un plombier cardiaque, moi, hein. Vous vous rendez compte, 38 étages dans le noir? Non, mais moi, je vous tire mon chapeau, madame, hein, vous êtes courageuse, hein.
J'ai 73 ans.
73 ans. Parce que à 73 ans, monter 43 étages, redescendre 38 et redescendre de... Attendez, il faut que je fasse le calcul, là. Il faut redescendre 33 et sans lumière. Oui. Et c'est vraiment noir, alors?
Ah oui, c'est noir.
C'est noir, il faut amener une lampe.
Non, il y a une rampe, hein.
Il y a une rampe?
Oui, enfin, il y a une rampe, tous les étages impairs.
Putain, il faut que j'appelle Belmondo, moi, hein, ça irait plus vite avec un hélicoptère et qu'il me jette directement dans votre fenêtre. Mais alors, chaque fois que vous montez 38, vous descendez 33 et vous remontez 40.
Voilà.
43.
Oui, c'est ça.
Ça fait 80 étages dans tout ça.
81.
81. C'est pas possible. Mais c'est inhumain ce qu'ils vous font, là. Et c'est vraiment bouché, votre levier, hein.
Ah oui, il est bouché, il refoule, hein.
Il refoule.
Alors, que je vous dise comment faire quand il arrive, hein.
Oui.
Quand il est en bas.
Oui.
Il y a un interphone.
Oui.
Il sonne et je descends lui ouvrir.
Vous descendez vous-même?
Oui, je vais descendre lui ouvrir.
On ne va pas vous faire descendre quand même qu'à 45 étages, 43 étages.
Mais
et
si...
remonter 81 à 73 ans pour lui ouvrir. Pourquoi il ne marche pas l'interphone?
Mais non.
Bon, alors vous faites une blague. Qui vous êtes? Vous êtes qui?
C'est une blague pour Europe 1.
Pour un rabbin?
Non, pas pour un rabbin.
Pour qui?
Pour Europe 1.
Pour Europe 1.
Ça, c'est la chute. C'est qu'en plus, il y a une chute. Vous l'attendez, la chute, quand vous enregistrez comme ça? Il faut...
Non.
Non,
non, il faut aller le plus loin possible et puis ça s'arrête là où on est monté le plus haut. Là. C'est...
Alors justement, ça monte. Là. C'est, ouais. on entre dans l'absurde, en quelque sorte. Il y a un de nos auditeurs, c'est Philippe, qui nous dit « J'ai le souvenir de deux énormes canulars de la fesse, Nicolas Hulot dans les égouts et Madame Ledoux enlevée par un aigle.
Ouais.
La profondeur et... »
Et l'air.
Et l'air.
Ouais, c'est la dimension, c'est nos vies. On est constitué de ça, hein. Le haut, le bas, les ténèbres, les questions, le doute, et puis aussi l'élévation et aussi les aspirations.
Et arriver à entraîner votre interlocuteur dans un monde fabriqué de toutes pièces, dans un rêve en quelque sorte,
ouais,
c'est ça ?
Ouais, c'est comme un conte, mais on appelle ça une farce parce que c'en est une, mais c'est aussi un conte qu'on crée à deux instinctivement, sans savoir où l'un entraîne l'autre. Et c'est ça que j'adore dans ce métier. En fait, c'est d'être entraîné aussi par l'autre, comme deux comédiens. L'improvisation, c'est notre histoire. C'est l'adapter, s'adapter. Notre faculté d'adaptation, c'est ce qui nous a toujours sauvés et c'est ce qui, dans ce cas-ci, nous fait rire.
Audrey nous dit via Twitter, Franck Ferrand a fini par trouver sa véritable ambition, prendre la place de Cyril Hanouna pour faire des canulars dans l'après-midi. Et pourquoi pas?
Et c'est un message codé, ça.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, vous recevez Franck Ferrand, Jean-Yves Lafesse, et voici le retour aux origines d'un contentieux franco-suédois.
Oui, c'est un contentieux très récent. Vous savez que lors de la dernière visite d'État du roi et de la reine de Suède, il y a eu des petits soucis de digestion après un dîner d'État à l'Élysée. Alors, on parlait de Cyril Hanouna à l'instant. Je vous propose d'entendre Cyril Hanouna dans la peau du premier ministre suédois, et ça donne ça.
Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter.
Oui, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour, monsieur.
Bonjour, je parle un peu le français.
Je ne sais pas vraiment très mal l'anglais, mais je vous écoute.
Je parle un peu le français. Je suis Stéphane Lofen.
Très bien.
Avoir un problème pour monsieur Notre Altesse ce soir oui. avec crustacés.
D'accord. On va lui faire une autre assiette, monsieur. Il ne mange pas de langouste ?
Pas de langouste. Pas le D'accord. langouste, pas le crevette, pas D'accord. le D'accord. le cabillaud, pas de poisson.
Pas de poisson, d'accord.
Pas ouais, de plus, poisson.
C'est du poisson en plat aussi également, donc.
Tac tac.
Bon, écoutez, on va lui faire autre chose. Ne vous inquiétez pas.
Que pouvez-vous proposer ?
Mais ce sera pas du poisson, monsieur. On va faire autre chose en fonction. Je vais voir avec la cuisine.
Peut-être Je sais, il aime le frite.
Non, mais vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire, monsieur. On fait le nécessaire.
Je suis dans l'inquiétude.
Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de poisson et pas de crustacés, monsieur.
Je peux vous donner son nourriture qu'il préfère.
Dites-moi.
Peut-être du comment on dit ?
On peut faire une viande.
Viande kebab ?
Non, mais vous inquiétez pas, on va faire
kebab, c'est le viande. Je sais qu'il aime ça. Il aime ça, le kebab.
On va faire le nécessaire, monsieur.
Et si, saucisse cocktail.
La volaille.
Le saucisse cocktail, il aime beaucoup.
Oui, non, mais on va pas mettre de la saucisse cocktail sur un dîner d'État, monsieur. On va mettre une volaille, vous inquiétez pas.
Et un couscous merguez.
Non, mais on fait le nécessaire, monsieur, vous inquiétez pas.
Couscous merguez et kebab, voilà.
On va regarder ça.
Et parce qu'il y aura peut-être Cyril Hanouna aussi qui va venir dîner.
Mais c'est une blague, c'est une plaisanterie.
C'est une plaisanterie. Bonjour. Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était une plaisanterie. Alors, il faut dire, Jean-Yves Lafesse, qu'on peut vous retrouver, mais sur scène maintenant.
Oui.
Pendant tout l'été, là.
Enfin, sur scène, c'est un bien grand mot.
Oui, vous êtes autant dans la salle que sur la scène, en fait.
Ouais, ça, maintenant, il coule loin. Enfin, faut venir voir. Ça s'appelle Détraqué. C'est, on a démarré là il y a quelques semaines. On a joué 8 fois. Ça commence à devenir un peu barré, voire détraqué. Les gens rigolent beaucoup. On est très content avec Madame Ledoux, qui est difficile
à
maîtriser.
Hein, d'ailleurs, vous le mettez sur l'affiche avec Madame Germaine Ledoux de la Comédie à la Française, précisez-vous.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça.
Ben oui.
Et il n'y a pas Monsieur Ledoux, Robert, il est resté chez lui.
En si, fait. Pas tout à fait, mais vous verrez qu'il a une forme un peu spéciale.
Jean-Yves Lafesse, détraqué.
Au Casino Lucien Barrière, à Carnac, tout l'été.
Et ben voilà, n'est-ce pas? Bonjour Marion Ruggeri.
Bonjour Franck, aujourd'hui on va vous parler masturbation.
Oh, ah, je reste.
Ah, je et ce n'est pas un poisson
regardez-moi
d'avril.
Regardez-moi dans les yeux quand vous me parlez de
voilà,
masturbation.
Voilà, ici se masturber était le dernier geste de l'homme libre. On va en parler avec Thibaut de Montaigu.
C'est quoi ce geste ?
Qui publie Voyage autour de mon sexe et le sexologue Jacques Weinberg.
Oh, à mon avis, vous aviez le meilleur assistant pour lancer un sujet pareil.
Là,
merci
raté,
beaucoup Marion, nous retrouvons demain en Blin.